Chapitre 2. Astérie. Astérie, chant d'oiseau, ménestrel officiel de la reine Kétrikène, a inspiré autant de chansons qu'elle en a écrit. Compagne légendaire de la reine Kétrikène, en quête de l'aide des anciens pendant la guerre des pirates rouges, elle a poursuivi son service auprès du trône des loin-voyants durant plusieurs décennies, alors que les six duchés se reconstruisaient. À l'aise, dans quelque milieu qu'elle se trouva, elle fut indispensable à la reine pendant les années troublées qui suivirent la purification de Serres. La ménestrelle se vit confier non seulement de signer des traités et de régler des différends entre nobles, mais aussi d'offrir l'amnistie à certaines bandes de brigands et familles de contrebandiers. Elle mit de sa propre main nombre de ses missions sous forme de chansons, mais on peut se demander si elle n'eut pas d'autres tâches à exécuter en secret pour les loin-voyants, tâches bien trop sensibles pour faire l'objet de chansons. Astérie garda Heure auprès d'elle deux bons mois. Mon amusement premier devant cette absence prolongée se changea d'abord en irritation, puis en colère, surtout contre moi-même. Je m'étais rendu compte à quel point j'en étais venu à me reposer sur les solides épaules du garçon quand j'avais dû employer les miennes propres aux corvées que je lui confiais ordinairement. Ce ne furent d'ailleurs pas les seules tâches que j'entrepris durant ce mois supplémentaire d'absence. La visite d'Imbre avait éveillé en moi un sentiment que je ne saurais nommer, mais qui m'évoquait un démon qui me mordait sans cesse pour m'obliger à remarquer tous les aspects misérables de ma petite propriété. La paix qui régnait dans ma chaumière isolée ressemblait désormais à du laisser-aller et à de l'oisiveté. S'était-il vraiment écoulé toute une année depuis que j'avais enfoncé une grosse pierre sous la marche de l'auvent qui s'affaissait, en me promettant d'effectuer plus tard une réparation définitive? Non, plutôt un an et demi. Je redressais l'auvent, puis, non content de nettoyer le sol du poulailler à la pelle, je lavais tout l'édifice à la lessive, avant d'aller couper des roseaux frais et de les répandre par terre. Je bouchais la fuite du toit de mon atelier, dans le mur duquel je découpais enfin une fenêtre fermée par de la peau huilée, comme je me le promettais depuis 2 ans. J'effectuais dans ma maison un nettoyage de printemps plus complet qu'au cours des années passées. Je coupais la branche rompue du frêne et la fis tomber proprement dans mon poulailler remis à neuf, à travers le toit que je réparais ensuite. Je terminais cette tâche quand Œil de Nuit m'avertit qu'il entendait des chevaux. Je dégringolais de mon échelle, attrapais ma chemise au vol et me rendis à l'avant de la chaumière pour accueillir Astérie et Heure. J'ignore si cela tenait à notre longue séparation ou à mon énergie renouvelée, mais j'eus l'impression de voir 2 inconnus. Cela n'était pas entièrement dû non plus à la nouvelle tenue de Heure, bien qu'elle soulignât la longueur de ses jambes et l'ampleur croissante de sa carrure. Sur sa vieille ponette bedonnante, il avait un aspect comique dont il avait sûrement conscience et qu'il devait apprécier à sa juste valeur. La monture était aussi mal adaptée à ce jeune homme en plein développement que le lit d'enfant dans lequel il couchait chez moi et que mon style de vie rassis. Je compris tout à coup que je ne pouvais décemment pas lui demander de rester pour s'occuper des poules pendant que j'irais courir par monts et par veaux. D'ailleurs, si je ne l'envoyais pas rapidement chercher fortune tout seul, le léger mécontentement que je lisais dans ses yeux verrons, réaction au fait de revenir à la maison, ne tarderait pas à se muer en amer découragement devant la vie. Heure avait été un bon compagnon pour moi. Le petit abandonné que j'avais pris sous mon aile m'avait peut-être secouru autant que je l'avais sauvé. Mieux valait le laisser prendre son envol, tant que nous éprouvions encore de l'affection l'un pour l'autre, plutôt qu'attendre que je sois devenu un fardeau pour lui. Heure n'était pas le seul à avoir changé à mes yeux. Rayonnante comme d'habitude, Astérie m'adressa un large sourire, tout en jetant la jambe par-dessus l'encolure de son cheval et en se laissant glisser à terre. Pourtant, alors qu'elle se dirigeait vers moi, les bras grands ouverts, je pris conscience du peu que je savais de sa présente existence. Je regardais ses yeux sombres à l'expression joyeuse et remarquai pour la première fois un début de pas de doigt à leur coin. Sa vêture devenait plus somptueuse chaque année, ses montures de meilleure qualité et ses bijoux plus onéreux. Ce jour-là, Son épaisse toison noire était retenue par une pince en argent massif. Manifestement, sa situation s'améliorait sans cesse. 3 ou 4 fois par an, elle descendait passer quelques jours chez moi et chamboulait ma paisible existence par ses histoires et ses chansons. Pendant le temps de son séjour, elle exigeait d'épicer les plats à son goût. Elle laissait traîner ses affaires sur ma table, mon bureau et mon plancher, et mon lit n'était même plus un asile où me réfugier quand l'épuisement me gagnait. Les jours qui suivaient son départ m'évoquaient une route de campagne sur laquelle flottaient de lourds nuages de poussière après le passage d'une caravane de marionnettistes. J'éprouvais la même impression de suffocation et de flou dans les yeux avant de retrouver ma monotonie quotidienne. Je lui rendis son étreinte avec force et perçus dans ses cheveux un mélange de poussière et de parfum. Elle s'écarta de moi, scruta mon visage et demanda aussitôt d'un ton pressant. « Qu'y a-t-il ? Tu as quelque chose de changé ?» Je souris tristement. « Je t'en parlerai plus tard, » promis-je, en sachant, tout comme elle, qu'une de nos conversations nocturnes tournerait sur ce sujet. « Va te laver, » fit-elle. « Tu sens aussi fort que mon cheval. » Elle me repoussa légèrement, et je me détournai d'elle pour accueillir Heure. « Eh bien, mon garçon, comment était-ce ? La fête du printemps de Castelserre était-elle à la hauteur des récits d'Astérie ?»« C'était bien, » répondit-il d'un ton neutre. Son regard croisa le mien, et je décelai un grand tourment dans ses yeux vairons, l'un marron, l'autre bleu. Heure, fis-je, inquiet, mais il esquiva la main que je tendais vers son épaule. Il s'éloigna de moi, mais peut-être son attitude revêche éveilla-t-elle quelques scrupules en lui, car il déclara peu après d'une voix rauque. « Je descends faire ma toilette au ruisseau. Je suis couvert de poussière. » « Accompagne-le. J'ignore ce qui ne va pas, mais il a besoin d'un ami. Et surtout d'un ami qui ne pose pas de questions, » fit Œil de Nuit. La tête basse, la queue à l'horizontale, il suivit le jeune garçon. À sa façon, il éprouvait autant d'affection pour Heure que moi, et il avait participé à part égale à son éducation. Une fois qu'ils furent hors de vue, je revins à la ménestrelle. « Tu sais ce qu'il a ?» Elle haussa les épaules avec un sourire torve. « Il a 15 ans. A-t-on besoin d'une raison pour faire la tête à son âge ? Ne te tracasse pas. Il peut s'agir de n'importe quoi. Une fille à la fête qui ne l'a pas embrassée, ou bien qui l'a embrassée. Le fait de quitter Castelserre, ou de rentrer à la maison, une saucisse du petit-déjeuner qui ne passe pas, laisse-le tranquille, il s'en remettra. » Je le regardais disparaître dans les bois en compagnie du loup. Les souvenirs que je garde de mes 15 ans ne sont peut-être pas les mêmes que les tiens, observai-je. Je soignais le cheval de la ménestrelle, ainsi que Trèfle, la ponette, pendant qu'elle pénétrait dans la chaumière, et je songeais que, quelle qu'eût été mon humeur, Burick m'aurait ordonné de m'occuper de ma monture avant de m'en aller. Oui, mais je n'étais pas Burick. Appliquait-il la même discipline à Orty, Chevalerie et Nîmes, qu'à moi autrefois? Je regrettais soudain de n'avoir pas demandé à Imbre les prénoms des autres enfants. Et puis, le temps d'en finir avec les chevaux, je regrettais la visite d'Imbre. Elle avait fait remonter trop de vieux souvenirs à la surface. Je les repoussais résolument. C'était des os vieux de 15 ans, comme aurait dit le loup. Je touchais brièvement son esprit. Heure s'était passé de l'eau sur le visage, puis, marmonnant dans sa barbe, il s'était enfoncé à grands pas dans les arbres, avec si peu de discrétion qu'ils avaient peu de chance de voir le moindre gibier. Je les plaignis tous les deux et rentrai dans la chaumière. Astérie avait vidé ses fontes sur la table. Ses bottes gisaient sur le seuil et sa cape pendait au dossier d'une chaise. La bouilloire commençait à siffler. La ménestrelle était montée sur un tabouret placé devant mon buffet. À mon entrée, elle me montra un petit pot marron. « Cette tisane est-elle encore bonne ? Elle a une drôle d'odeur. » « Elle est excellente quand je souffre assez, pour avoir le courage de l'avaler. Descends de là. » Je la pris par les hanches et la soulevai sans mal. bien que ma vieille cicatrice au dos m'élança quand je la posai à terre. « Assieds-toi, je m'occupe de la tisane. Parle-moi plutôt de la fête du printemps. » Elle s'exécuta tandis que je sortais deux de mes rares tasses, coupais des tranches de mon dernier pain et mettais le civet à mijoter. Ce qu'elle me rapporta de Castelserre ne sortait pas de l'ordinaire. Elle évoqua des ménestrels qui avaient bien ou mal tiré leur épingle du jeu, me répéta des ragots sur des dames et des seigneurs que je n'avais jamais connus, et critiqua ou loua la table des divers nobles chez qui elle avait été reçue. Elle racontait chaque anecdote avec esprit, et me faisait éclater de rire ou secouer la tête suivant le cas, presque sans susciter en moi la douleur qu'Imbre y avait éveillée. Cela tenait, je le supposais, à ce qu'il m'avait parlé de gens que nous avions connus et aimés tous les deux, et qu'il les avait évoqués de ce point de vue intime. Ce n'était pas Castelserre, ni la vie citadine en soi qui me manquait, mais les jours de mon enfance et les amis que j'avais laissés. Sous cet aspect, je ne craignais rien. Il m'était impossible de retrouver ce temps-là. Seules quelques personnes de cette époque savaient que j'étais encore vivant, et cela me convenait parfaitement. Je fis part de mes réflexions à ma visiteuse. Parfois, tes histoires me tiraillent le cœur et me donnent envie de retourner à Castelserre, mais ce monde m'est désormais interdit. Elle fronça les sourcils. Je ne vois pas pourquoi. J'éclatai de rire. Tu ne crois pas que certains seraient étonnés de me voir vivant? Elle pencha la tête et me dit avec un regard franc. Je crois que bien rares, même parmi tes anciens amis, seraient ceux qui te reconnaîtraient. La plupart ont le souvenir d'un adolescent sans la moindre cicatrice. Ton nez cassé, ta balafre, et même ta mèche blanche te fourniraient peut-être un déguisement suffisant. En outre, tu étais vêtu comme le fils d'un prince à l'époque. Aujourd'hui, tu es habillé comme un paysan. Tu avais alors la grâce d'un guerrier. Tu te déplaces aujourd'hui, le matin ou par temps froid, avec la prudence d'un vieillard. Elle secoua la tête d'un air de regret et reprit. Tu n'as pas pris soin de ton aspect, et les années n'ont pas été charitables pour toi. Tu pourrais ajouter 5, voire 10 ans à ton âge réel, et personne n'y verrait que du feu. Venant de ma maîtresse, la brutalité de ce jugement me fit mal. Eh bien, c'est toujours bon à savoir, fis-je, mi-figue, mi-raisin. J'allais retirer la bouilloire du feu pour éviter d'avoir à soutenir le regard d'Astérie. Elle se méprit sur mes paroles et sur mon ton. Oui, et si tu songes que les gens ne voient que ce qu'ils s'attendent à voir et qu'ils sont convaincus de ta mort, je pense que tu pourrais tenter l'aventure. Envisages-tu de revenir à Castelserre dans ces conditions? Non. Je sentis tout ce que ma réponse avait de sec, mais je ne vis pas qui ajouter. D'ailleurs, la ménestrelle ne parut pas s'en offusquer. Dommage, tu passes à côté de tant de choses à vivre ainsi isolée. Et elle se lança aussitôt dans une description du bal de la fête du printemps. Malgré mon humeur acerbe, je ne pus m'empêcher de sourire quand elle évoqua Imbre aux prises avec une jeune admiratrice de 16 étés qui le suppliait de danser avec elle. Elle avait raison, j'aurais adoré me trouver sur place. Alors que je préparais le repas, mes pensées s'égarèrent sur la voix douloureuse des « Et si ?» Et si j'avais eu la possibilité de rentrer à Castelserre en compagnie de ma reine et d'Astérie? Et si j'avais retrouvé Molly et notre enfant? Comme toujours, dans quelque sens que je les retourne, ces rêveries s'achevaient en catastrophe. Si j'étais revenu à Castelserre vivant alors que tous me croyaient mort, exécuté pour avoir pratiqué le vif, je n'aurais fait que provoquer des dissensions en un temps où Kétriken cherchait à réunifier le royaume. Des factions se seraient formées pour me préférer à elle comme souverain, car tout bâtard que je fusse, je n'en demeurais pas moins de la lignée des loin-voyants, tandis qu'elle ne régnait que par droit de mariage, et une faction plus puissante aurait exigé ma mise à mort, et de façon définitive cette fois. Et si j'étais retourné auprès de Molly pour l'emmener et l'épouser? Cela aurait été possible si je n'avais eu d'autres préoccupations que mon sort propre. Burick et elle me pensaient mort. La femme qui avait été mon épouse en tout sauf en titre et l'homme qui m'avait élevé, qui avait été mon meilleur ami, s'étaient rapprochés l'un de l'autre. Burik avait donné un toit à Molly. Il avait assuré sa vie pendant que mon enfant grandissait en elle, puis, de ses propres mains, il avait mis ma bâtarde au monde. Ensemble, ils avaient protégé Horty des sbires de Royal, et Burik avait pris la femme et l'enfant sous son aile, non seulement pour les mettre à l'abri, mais aussi pour les aimer. J'aurais pu aller les trouver, témoignage vivant de l'infidélité dont ils avaient fait preuve envers moi. J'aurais pu faire du lien qui les unissait un objet de honte. Burik m'aurait rendu Molly et Horty. Son inflexible sens de l'honneur ne lui aurait pas permis d'agir autrement. Et toute ma vie, je me serais demandé si Molly me comparait à lui, si l'amour qu'ils avaient partagé était plus fort et plus sincère que « Tu as laissé attacher le civet », fit Astéry d'un ton agacé. C'était exact. Je nous servis en plongeant ma louche juste à la surface du ragoût, puis je rejoignis la ménestrelle à table en écartant tous mes passés, réels et imaginaires. Je n'avais pas besoin d'eux. Astéry suffisait à m'emplir l'esprit. Comme d'habitude, j'écoutais et elle parlait. Elle commença par l'évocation d'un ménestrel arriviste qui, à la fête du printemps, avait eu le front non seulement de chanter une ballade qu'elle avait elle-même composée, en n'en modifiant qu'un vers ou deux, mais aussi de s'en prétendre l'auteur. Un bout de pain à la main, elle appuyait son récit de grands gestes, et j'étais toujours sur le point de me laisser prendre à son anecdote. Mais mes propres souvenirs d'autres fêtes du printemps ne cessaient de faire irruption dans mes pensées. Avais-je épuisé tout le sel de la vie simple que je m'étais créée? Mon assistant et le loup me suffisaient depuis de longues années. Qu'est-ce qui me taraudait aujourd'hui? De là, je passais à une autre idée discordante. Où était Heure? J'avais préparé de la tisane pour trois, et un repas pour trois aussi. Et Heure avait toujours un appétit féroce après une corvée ou un voyage. Le fait qu'il n'arrive pas à surmonter son humeur sombre pour se joindre à nous me tourmentait. Et, alors qu'Astéry poursuivait son récit, mes yeux se portèrent involontairement à plusieurs reprises vers son bol de civet intact. La ménestrelle surprit mes coups d'œil répétés. « Ne t'inquiète pas pour lui, » me dit-elle d'un ton presque irrité. « Il est adolescent et il a le caractère boudeur d'un adolescent. Quand il aura suffisamment faim, il viendra. Ou bien, il gâchera du bon poisson en le laissant brûler au-dessus d'un feu. » La pensée du loup me parvint en réponse à la question que je lui avais posée par le biais du vif. Il se trouvait près du ruisseau. Heure avait fabriqué une espèce de lance à partir d'un bâton, et le loup avait sauté à l'eau pour chasser sous le surplomb de la rive. Quand les poissons étaient nombreux, il n'avait aucune difficulté à en coincer un là, avant de plonger la tête sous l'eau et de le saisir entre ses mâchoires. Le froid faisait souffrir ses articulations, mais le feu du garçon le réchaufferait sans tarder. Ils allaient bien. « Ne t'en fais pas !» Le conseil était vain, mais je fis semblant de l'accepter. Nous finîmes de manger, puis je débarrassai la table. Pendant que je faisais un peu de ménage, Astéry s'assit près du feu et égrena sur sa harpe des notes qui se muèrent peu à peu en l'air de la vieille chanson sur la fille du meunier. Quand j'eus terminé de nettoyer, j'allais m'installer près d'elle en apportant pour chacun un gobelet d'eau-de-vie de bord des sables. Je pris place dans le fauteuil, tandis qu'elle restait assise par terre, près de l'âtre. Elle s'adossa contre mes jambes sans cesser de jouer. J'observais ses mains qui couraient sur les cordes et notais la torsion de certains de ses doigts qu'on lui avait brisés à titre d'avertissement. Avertissement destiné à moi. À la fin du morceau, je me penchai et l'embrassai. Elle me rendit mon baiser, puis posa sa harpe pour être plus à l'aise. Elle se leva et me tira par les mains pour m'obliger à en faire autant. Comme je la suivais dans ma chambre, elle fit « Tu es pensif ce soir. » J'acquiesçai d'un petit grognement. Si je lui avouais que la description qu'elle avait faite de moi avait heurté mes sentiments, j'aurais eu l'impression d'être un gamin pleurnichard. Voulais-je qu'elle me mente? Qu'elle me dise que j'étais encore jeune et avenant, alors que c'était manifestement faux. Le temps avait passé sur moi, voilà tout. Et cela n'avait rien de surprenant, Pourtant, Astérie persistait à revenir à moi. Au cours de toutes les années écoulées, elle était toujours revenue à moi et dans mon lit. Ce n'était pas rien. « Tu voulais me parler de quelque chose ? » fit-elle. « Plus tard, » répondis-je. Le passé s'accrochait à moi, mais je l'obligeais à lâcher prise, décidé à m'immerger dans le présent. La vie que je menais n'était pas si affreuse. Elle était simple, sans obstacle ni conflit. N'avais-je pas toujours rêvé d'une existence où je prendrais seul mes décisions ? Et puis, je n'étais pas vraiment seul. J'avais Œil de Nuit, Heure et Astérie quand elle venait me voir. J'ouvris sa tunique, puis son corsage pour dénuder sa poitrine, tandis qu'elle déboutonnait ma chemise. Elle se colla à moi et s'y frotta avec le plaisir sans vergogne d'un chat câlin. Je la serrai fort et baissai le visage pour lui baiser la tête. Cela aussi, c'était simple et d'autant plus agréable. Mon matelas dont je venais de changer la bourre était épais et sentait bon les herbes de prairie qui l'emplissaient. Nous nous y laissâmes tomber, et pendant quelque temps, je cessais de penser. Cependant, que je m'efforçais de nous convaincre tous les deux que malgré les apparences, je restais un jeune homme. Un peu plus tard, je m'attardais dans l'arrière-pays de l'amour. Je songe parfois qu'on trouve mieux le repos dans cet état intermédiaire entre la veille et le sommeil que lorsqu'on dort à point fermé. L'esprit arpente cette zone crépusculaire et y découvre des vérités que dissimule tout autant la lumière du jour que les rêves. Des éléments de nous-mêmes que nous ne sommes pas prêts à connaître y résident dans l'attente de cette phase où l'esprit baisse sa garde. Je me réveillais. J'avais les yeux ouverts et j'étudiais les détails de ma chambre, plongé dans la pénombre, avant de me rendre compte que le sommeil m'avait déserté. Le bras d'Astérie reposait en travers de ma poitrine. En dormant, elle avait repoussé notre couverture à coups de pied. La nuit cachait sa nudité qu'elle avait révélée ainsi avec insouciance. Sans bouger, j'écoutais sa respiration et humais le mélange de transpiration et de parfum qui émanait d'elle tout en me demandant ce qui m'avait tiré du sommeil. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais je ne parvenais pas non plus à me rendormir. D'un mouvement de reptation, je me dégageais du bras d'Astérie puis me levais. Dans le noir, je cherchais à tâtons ma chemise et mes choses que j'avais laissées tomber au petit bonheur la chance. Les braises de l'âtre émettaient une lueur hésitante dans la pièce principale, où je ne m'attardais pas. J'ouvris la porte et sortis pieds nus dans la douce nuit de printemps. Je restai un moment immobile pour laisser à mes yeux le temps de s'habituer à l'obscurité, puis, m'éloignant de la chaumière et du jardin, je me dirigeai vers le ruisseau. Le sentier de terre était dur, battu par mes trajets quotidiens pour me ravitailler en eau. Les frondaisons des arbres se rejoignaient au-dessus de moi et la lune n'était pas visible, mais mes pieds et mon nez connaissaient le chemin aussi bien que mes yeux. Il me suffisait de suivre mon vif pour rejoindre mon loup. Bientôt, je repérai la lumière orangée du feu mourant de Heure et perçus l'odeur persistante du poisson cuit. Il dormait près du feu. Le loup, le museau dans la queue, Heure collé à lui, un bras autour du cou d'Œil de Nuit. Ce dernier ouvrit les yeux à mon approche, mais ne bougea pas. « Je t'avais dit de ne pas t'en faire. » « Je ne m'en fais pas. » Je suis là, c'est tout. Heure avait laissé quelques bouts de bois près du feu. Je les ajoutais aux braises, puis je m'assis et regardais les flammes commencer à les lécher. La lumière augmenta en même temps que la chaleur. Je savais que le petit était réveillé. On ne passe pas sa vie avec un loup sans acquérir un peu de son sens de l'observation. J'attendis qu'il parle. « Ce n'est pas à cause de toi, » fit-il. « Pas de toi seul, en tout cas. » Je ne le regardais pas. Il y a certaines choses qu'il vaut mieux dire dans le noir. J'attendis qu'il poursuive. Le silence peut poser toutes les questions, alors que la langue a tendance à ne poser que les mauvaises. « Il faut que je sache !» s'exclama-t-il, éclatant soudain. Mon cœur sauta un battement à l'idée de la question à venir. dans un coin de mon âme, je craignais depuis toujours qu'il ne la pose. Je n'aurais pas dû le laisser aller à la fête du printemps, me dis-je éperdu. Si je l'avais gardé ici, mon secret ne serait pas en péril. Mais il ne s'agissait pas de cette question-là. Étais-tu au courant qu'Astérie est mariée ? Du coup, je le regardais et mon expression dut répondre à ma place, car il ferma les yeux d'un air compatissant. Pardon, dit-il, j'aurais dû me douter que tu n'en savais rien. J'aurais dû trouver un meilleur moyen de te prévenir. Tout à coup, le simple réconfort d'une femme qui se mussait dans mes bras quand elle en avait envie, parce qu'elle désirait ma compagnie, les paisibles soirées au coin du feu où se mêlaient bavardage et musique, ses yeux noirs et rieurs plantés dans les miens, tout cela m'a paru entaché de culpabilité, de fausseté et de sournoiserie. J'avais fait preuve d'autant de stupidité qu'en mon jeune temps. Non, davantage, car ce qui est crédulité chez un adolescent est sottise chez un adulte. Mariée. Astérie mariée. Elle pensait autrefois que nul ne voudrait d'elle pour femme, car elle était stérile. Elle m'avait expliqué qu'elle devait compter sur ses chansons pour lui assurer une bonne position, parce que jamais un homme ne s'occuperait d'elle. Jamais aucun enfant ne subviendrait à ses besoins quand elle serait vieille. Lorsqu'elle m'avait exposé sa situation, elle était sans doute convaincue de ce qu'elle disait. Ma sottise avait été de penser que cela ne changerait jamais. Œil de Nuit s'était levé en s'étirant avec raideur, et il vint se coucher près de moi. Il posa le museau sur mon genou. « Je ne comprends pas, tu es malade ?»« Non, idiot, c'est tout. » « Ah, rien de nouveau alors, tu n'en es pas mort jusqu'ici. » Mais il s'en est fallu de bien peu parfois. Je pris une inspiration pour me donner du courage. « Dis-moi ce que tu sais. » Je n'avais nulle envie d'en savoir davantage, mais je sentais que Heure avait besoin de s'épancher. Mieux valait en finir une fois pour toutes. Avec un soupir, il s'assit de l'autre côté d'Œil de Nuit, prit une brindille par terre et s'en servit pour attiser le feu. Elle n'avait pas prévu que je le découvre. Je pense. Son mari n'habite pas à Castelserre. Il a effectué le trajet pour lui faire une surprise et passer la fête du printemps avec elle. Alors qu'il parlait, la brindille s'enflamma et il la jeta dans le feu. Il se mit à gratter Œil de Nuit sans y penser. Je me représentais un vieux fermier honnête qui, ayant atteint les années paisibles de son existence, avait épousé une ménestrelle et avait peut-être de grands enfants d'un premier mariage. S'il s'était rendu à Castelserre pour faire une surprise à son épouse, c'est qu'il l'aimait. La fête du printemps était par tradition la fête des amoureux, jeunes et vieux. Il s'appelle Dewin, poursuivit Heure. Et c'est un parent du prince de Voir, un cousin éloigné ou quelque chose comme ça. Il est très digne et il porte toujours de superbes atours. Là, il avait une cape deux fois plus large que nécessaire, avec un col de fourrure et un bracelet d'argent à chaque poignet. En plus, il est costaud. Au bal, il a soulevé Astérie à bout de bras et l'a fait tournoyer, si bien que tout le monde s'est reculé pour les regarder. Heure ne me quittait pas des yeux. Il devait trouver rassurante mon évidente consternation. J'aurais dû me douter que tu n'en savais rien. Tu ne ferais pas cocu un homme aussi noble.
Je ne ferai personne cocu, répondis-je d'une voix défaillante. Du moins pas sciemment.
Il soupira comme soulagé. C'est dans ces idées que tu m'as élevé. Puis son esprit d'adolescent revint aussitôt à la façon dont la situation l'avait affecté personnellement. Quand je les ai vus s'embrasser, j'en ai été tout retourné. Je n'avais jamais vu personne s'embrasser comme ça, à part Astérie et toi. J'ai d'abord cru qu'elle t'était infidèle, et puis, quand je l'ai entendu le présenter comme son mari, il pencha la tête. Ça m'a vraiment fait mal. Je pensais alors que tu étais au courant et que ça t'était égal, que tu m'avais enseigné depuis toujours une certaine attitude que tu ne respectais pas toi-même. Je me suis demandé si tu ne me jugeais pas abruti au point de ne jamais rien remarquer. Si tu en riais avec Astérie, comme si tant de stupidité
était un sujet de moquerie. Ça m'a tellement envahi la tête que je me suis mis à douter de tout ce que tu m'avais appris. » Il plongea les yeux dans le feu. « C'était affreux de se sentir trahi ainsi. » Je fus soulagé de constater qu'il prenait l'événement sous l'angle personnel. Mieux valait, et de loin qu'il songe, à ce qu'il représentait pour lui plutôt qu'à la souffrance que je ressentais. Je le laissais suivre le fil de ses pensées. Mon esprit avait emprunté un autre chemin, craquant comme une vieille carriole sortie de son abri et fraîchement graissée pour le printemps. Tandis que je résistais à la rotation des roues qui me menait à une conclusion inévitable. Astérie était mariée, et pourquoi pas? Elle n'avait rien à y perdre, et tout à y gagner, une demeure confortable, avec son seigneur, sans doute un petit titre, de la fortune et une protection pour ses vieux jours. Quant à lui, il avait une charmante et jolie épouse, ménestrelle de renom, dont il partageait la gloire par ricochet en suscitant, pour son plus grand plaisir, la jalousie des autres hommes. Et quand elle en avait assez de lui, elle avait la liberté de prendre la route, selon la coutume des ménestrels, et de s'amuser avec moi, sans que son mari ni son amant connaissent la véritable situation. Son amant. Pouvais-je supposer que j'étais le seul?
Tu croyais qu'elle ne couchait qu'avec toi?
Jamais de gants avec Heure. Je me demandais quelles questions il avait posées à Astérie sur la route du retour. Je reconnus que je n'y avais surtout jamais réfléchi. Tant d'éléments de l'existence étaient plus faciles à supporter si on n'y accordait pas trop d'attention. Je devais pourtant me douter qu'Astérie se donnait à d'autres hommes. Pour une ménestrelle, cela n'avait rien d'extraordinaire. Et j'avais excusé ainsi, à mes propres yeux, comme à ceux de Heure, le fait que je couchais avec elle. Elle n'en parlait jamais. Je ne l'interrogeais jamais. Et ses autres amants restaient des êtres hypothétiques, sans visage et sans corps, mais assurément pas des époux. Aujourd'hui, j'apprenais que son mari et elle s'étaient jurés fidélité. Et cela changeait tout pour moi.
« Que vas-tu faire ?»
C'était une excellente question que j'avais pris grand soin d'éviter jusque-là. « Je ne sais pas exactement, » répondis-je, ce qui était un mensonge.
D'après Astérie, ça ne me regarde pas, et ça ne fait de tort à personne. Elle m'a dit que si je te mettais au courant, c'est moi qui me montrerais sans cœur, qui te ferais souffrir et pas elle. Elle a ajouté qu'elle avait toujours fait attention de ne pas te faire de mal, que tu avais connu assez de douleurs dans ta vie. Quand je lui ai fait observer que tu avais le droit de savoir, elle m'a répondu que tu avais encore plus le droit de ne pas savoir.
Astérie, et sa langue trop agile, elle ne lui avait laissé aucune échappatoire qui lui permît de se sentir en accord avec lui-même. Il me regardait à présent, ses yeux verrons exprimant toute la fidélité d'un chien, et il attendait mon jugement. Je lui dis la vérité. Je préfère apprendre la réalité des faits de ta bouche que me laisser abuser sans que tu réagisses.
Je t'ai fait du mal, alors ?
Je secouai lentement la tête. C'est moi-même qui me suis fait du mal, mon garçon. Et c'était vrai. Je n'étais pas ménestrel. Je n'avais pas à m'arroger les privilèges de ce métier. Ceux qui gagnent leur vie grâce à leurs doigts et leur langue ont sans doute le cœur plus dur que le commun des mortels. Un ménestrel fidèle est plus rare qu'un avare dépensier, dit le proverbe. Je me demandais si l'époux d'Astérie y prêtait attention.
J'avais peur que tu te mettes en colère. Elle m'a prévenu que tu risquais de piquer une telle rage que tu la battrais.
Et tu l'as cru? Cette dernière phrase me poignait autant que la révélation du mariage d'Astérie. Il retint son souffle, hésita, puis dit rapidement:
tu n'as pas le caractère facile, et je n'avais jamais eu jusqu'ici à t'annoncer de nouvelles qui puissent te faire mal, une nouvelle qui te donne l'impression de passer pour un imbécile.
Il était perceptif, ce garçon, bien plus que je ne l'avais imaginé. Oui, je suis en colère, Heure, mais en colère contre moi. Il replongea le regard dans les flammes.
Je me sens mieux maintenant. Je me fais l'effet d'un égoïste.
Je me réjouis que tu te sentes mieux, et qu'il n'y ait plus de gêne entre nous. Allons, n'y pensons plus,
et parle-moi de la fête du printemps. Comment as-tu trouvé Bourg de Castelserre ?» Il se mit à parler et je l'écoutais. Il avait vu Castelserre et la fête avec les yeux d'un adolescent. Et au fur et à mesure de ses descriptions, je compris que la citadelle et la ville avaient bien changé depuis l'époque où j'y vivais. Le bourg s'était débrouillé pour s'agrandir en s'agrippant aux falaises rébarbatives qui le dominaient et en gagnant sur la mer grâce à des pilotis. Heure évoqua des tavernes et des échoppes flottantes. Il fit aussi allusion à des marchands venus de Terrilleville et de terres plus lointaines encore, ainsi que des îles d'outre-mer. Bourg de Castelserre avait pris de l'importance en tant que port de commerce. Quand il décrivit la grande salle de la citadelle et la chambre qu'on lui avait fournie en tant qu'invité d'Astérie, je me rendis compte que le château avait considérablement changé lui aussi. Il parla de tapis, de fontaines, de somptueuses tentures sur tous les murs, de fauteuils confortables et de lustres étincelants. Ce qu'il dépeignait m'évoquait davantage le palais raffiné de Royal à Gué de Négos que l'austère forteresse que j'avais habitée autrefois. Et j'y pressentais l'influence d'Imbre autant que celle de Kétriken. Le vieil assassin avait toujours aimé les beaux objets ainsi que le confort. J'avais résolu de ne jamais retourner à Castelserre. Pourquoi, dans ce cas, me sentais-je si déboussolé d'apprendre que le château que je connaissais, la farouche forteresse de pierre noire, n'existait plus vraiment. Heure avait d'autres anecdotes à me raconter sur les bourgades qu'ils avaient traversées à l'aller et au retour, et l'une d'elles me glaça. « J'ai eu la frousse de ma vie un matin à Bec de Hardin, » fit-il. « Ce nom ne me dit rien. Je savais vaguement que nombre de ceux qui avaient fui la côte pendant les années où les pirates rouges y sévissaient étaient revenus fonder des villes nouvelles, pas toujours sur les cendres des anciennes. » Je hochai la tête comme si je connaissais l'endroit. Sans doute la dernière fois que j'y étais passé, ce n'était qu'un élargissement de la route. Les yeux de Heure s'étaient agrandis, et je compris que, pour le moment, il avait oublié les faux-semblants d'Astérie. Nous nous rendions à la fête du printemps. Nous avions passé la nuit dans une auberge du village, grâce à Astérie qui avait obtenu le souper et le gîte contre quelques balades, et tout le monde se montrait si aimable avec nous que je trouvais Bec de Hardin très sympathique. Dans la salle commune, alors qu'Astérie avait cessé de chanter, j'avais entendu des commentaires furieux sur un pratiquant du vif qu'on avait arrêté parce qu'il avait ensorcelé des vaches pour qu'elles ne donnent plus de lait. Mais je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention. Pour moi, ce n'était que les paroles d'hommes qui avaient bu trop de bière et parlaient trop fort. Le patron nous a donné une chambre à l'étage. Je me suis réveillé tôt, beaucoup trop pour Astérie, mais je n'arrivais plus à me rendormir. Alors, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé les gens aller et venir dans les rues. Sur la place, une foule commençait à se former, et j'ai pensé qu'il devait y avoir un marché ou une foire. Au lieu de ça, on y a traîné une femme couverte de bleu et de sang. On l'a attachée à un poteau et j'ai cru qu'on allait lui donner le fouet. Mais à ce moment, j'ai remarqué que certains parmi la foule avaient apporté des paniers remplis de pierres. J'ai réveillé Astérie pour lui demander ce qui se passait, mais elle m'a ordonné de me tenir tranquille, en affirmant que ni elle ni moi ne pouvions rien faire. Elle m'a aussi ordonné de m'écarter de la fenêtre. Mais je n'ai pas bougé, je ne pouvais pas. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Je me répétais que quelqu'un allait intervenir. Tom, elle était attachée à un poteau sans défense. Un homme s'est avancé et a lu un document à voix haute. Puis, il s'est écarté et la foule a lapidé la femme. Il se tut. Il savait que dans les villages, les sanctions étaient impitoyables pour les voleurs de chevaux et les assassins. Et il avait entendu parler de flagellation et de pendaison. Mais il n'en avait jamais été témoin. Il avala sa salive pendant qu'une onde glacée se répandait en moi. Œil de nuit gémit, et je posai la main sur lui. Il aurait pu s'agir de toi. Je sais. Heure reprit son souffle. Je me suis dit que je devais descendre sur la place, qu'il fallait intervenir, mais j'avais trop peur. J'en avais honte, mais j'étais paralysé. Je suis resté devant la fenêtre, à regarder les pierres pleuvoir sur la femme qui essayait de se protéger la tête et les bras. J'en avais la nausée. Et tout à coup, j'ai entendu un bruit que je ne connaissais pas. On aurait dit celui d'un torrent qui aurait traversé l'air. Le ciel s'est obscurci comme si des nuages d'orage arrivaient, mais il n'y avait pas de vent. C'étaient des corbeaux, Tom, un vol d'oiseaux noirs. Je n'en avais jamais vu autant à la fois. Ils croissaient et ils criaillaient, comme ils font pour chasser un aigle ou un faucon. Mais cette fois, ce n'était pas à un aigle qu'ils en avaient. Ils sont apparus des collines derrière le village. Ils ont rempli le ciel comme une couverture noire qui bat au vent sur une corde à linge. Puis ils ont fondu sur la foule en poussant de grands cris. J'en ai vu un se poser sur la tête d'une femme et lui attaquer les yeux à coups de bec. Les gens couraient dans tous les sens en hurlant et en battant des bras pour écarter les oiseaux. Les corbeaux s'en sont pris à un attelage. Les chevaux se sont affolés et ils ont forcé avec leurs chariots dans la mêlée. Des cris montaient de partout et même Astérie s'est levée pour s'approcher de la fenêtre. Bientôt les rues se sont retrouvées désertes. Seuls restaient les corbeaux, perchés dans tous les coins, sur les toits, sur les appuis-fenêtres, et les branches des arbres pliaient sous leur nombre. La femme qui avait été attachée, celle au vif, elle n'était plus là. On ne voyait plus que les cordes ensanglantées toujours entortillées autour du poteau. D'un seul coup, tous les oiseaux se sont envolés et ils ont disparu.
La voix de Heur se fit murmure.
Un peu après, ce matin-là, le patron de l'auberge a déclaré que, pour lui, la femme s'était changée en oiseau et qu'elle était partie avec les autres.
Plus tard, me dis-je, plus tard, je lui révélerai que ce n'était pas vrai, qu'elle avait peut-être appelé les oiseaux pour l'aider à s'échapper, mais que même ceux qui avaient le vif étaient incapables de se transformer. Plus tard, je lui ferai comprendre qu'il n'avait pas fait preuve de lâcheté en ne se portant pas à son secours, que la foule l'aurait simplement lapidé lui aussi. Plus tard. L'histoire qu'il venait de me rapporter était comme du pu qui s'écoule d'une plaie. Mieux valait le laisser s'évacuer librement. Je revins à Heur.
Et ils se font appeler le lignage. Le patron a dit qu'ils commencent à nourrir des illusions de grandeur, qu'ils veulent prendre le pouvoir comme à l'époque où le prince Pi régnait. Mais si ça arrive, ils se vengeront de nous tous. Ceux qui n'ont pas le vif deviendront leurs esclaves, et si quelqu'un tente de les défier, il sera jeté aux bêtes de ceux qui possèdent le vif.
Il baissa encore le ton et s'éclaircit la gorge.
D'après Astérie, c'est de la bêtise pure et simple. Ceux qui ont le vif ne sont pas comme ça. Toujours selon elle, la plupart d'entre eux ne demandent qu'à mener une existence tranquille et discrète.
Je toussotais, surpris par la brusque reconnaissance que j'éprouvais pour Astérie. C'est une ménestrelle. Elle rencontre toutes sortes de gens et possède des connaissances particulières. Tu peux donc la croire sur parole. Heur m'avait donné matière à réflexion, et à l'excès. C'est à peine si je parvins à prêter attention au reste de son récit. Une rumeur extravagante l'intriguait, selon laquelle Terrilleville élevait des dragons et que bientôt, chaque ville pourrait acheter une de ces créatures pour la protéger. Je lui assurais que j'avais vu de vrais dragons et qu'il ne fallait pas prendre ces racontars au sérieux. Plus réaliste, des bruits couraient sur le conflit entre Terrilleville et Calcède, qui risquait de se propager au Six-Duché.
« Pourrions-nous avoir la guerre chez nous ?»
me demanda-t-il. Étant donné sa jeunesse, il ne conservait de notre lutte contre les pirates que des souvenirs vagues mais effrayants. C'était cependant un garçon, et une guerre lui semblait un événement aussi intéressant que la fête du printemps. Tôt ou tard, la guerre éclate avec Calcède, lui répondis-je en citant un vieux proverbe. Et même quand nous ne sommes pas en conflit déclaré, il se produit toujours des incidents de frontières, sans parler de la piraterie et des razzias incessantes. Ne t'en inquiète pas. Les duchés de Orfond et de Ripon supportent toujours le gros du choc, et ils ne s'en plaignent pas. Le duché de Orfond ne rêve que de se tailler un nouveau bout de territoire sur celui du duc de Calcède. La conversation dévia ensuite vers le sujet moins sensible et plus prosaïque de la fête du printemps. Heur évoqua des jongleurs qui lançaient en l'air des bâtons enflammés et des lames nues, me rapporta les meilleures paillardises d'un spectacle de marionnettes auquel il avait assisté, et me parla d'une jolie sorcière des haies, nommée Gina, qui lui avait vendu une amulette destinée à le protéger des voleurs à la tire, et qui lui avait promis de faire un jour crochet par notre chaumière.
J'éclatai de rire quand il m'avoua que l'amulette lui avait été dérobée dans l'heure. Il avait mangé du poisson en saumure, qui lui avait beaucoup plu, jusqu'au soir où il avait bu trop de vin et vomi les deux ensemble. « Désormais, affirma-t-il, il ne pourrait plus en avaler une bouchée. » Je le laissai raconter ses souvenirs, heureux qu'il prenne enfin plaisir à partager avec moi son escapade à Castelserre. Pourtant, chaque anecdote me démontrait plus clairement que mon existence routinière ne lui convenait plus. Il était temps que je lui trouve une place d'apprenti, et que je le laisse voler de ses propres ailes. L'espace d'un instant, j'eus la sensation de me tenir au bord d'un gouffre. Je devais confier Heure à un maître capable de lui enseigner un vrai métier, et je devais aussi expulser Astérie de ma vie. Je savais que si je lui interdisais mon lit, elle refuserait de s'humilier à revenir en tant que simple amie. Je perdrais le bien-être innocent de notre compagnie mutuelle. Semblable au bruit d'une pluie légère, les paroles de Heure continuaient à tomber autour de moi. Le garçon me manquerait. Je sentis le poids et la chaleur de la tête du loup quand il la posa sur mon genou. Il regarda le feu sans ciller. « Autrefois, tu rêvais d'un temps où nous vivrions, seuls, toi et moi. » Le lien du vif ne permet guère les mensonges polis. Jamais je n'aurais cru avoir tant besoin de la compagnie de ceux de mon espèce, reconnus-je. Il me jeta un doux regard. « Nous sommes les seuls de notre espèce. Cela a toujours été la pierre d'achoppement dans les liens que nous avons cherché à forger avec d'autres. Loups ou humains, ils n'étaient pas de notre espèce. Même ceux qui se disent de ce qu'ils appellent le lignage ne sont pas aussi intimement entrelacés que nous deux. » C'était la vérité, je le savais. Je plaçai la main sur sa large tête et lissai les poils de ses oreilles entre mes doigts. Mon esprit était vide. Cela ne lui convenait pas. « Le changement vient de nous emporter de nouveau, changeur. Je le sens au bord de l'horizon, presque comme une odeur. On dirait un grand prédateur qui serait entré sur notre territoire. Tu ne le perçois pas ?»«
Non, je ne perçois rien. »
Mais il décela le mensonge dans ma réponse, et il poussa un long soupir.